Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France toujours sous la menace d'attentats terroristes. Une dizaine de lycées en PACA ont été visés par des emails malveillants. Le Premier ministre Gabriel Attal met à nouveau en garde. Il nous appelle à la plus grande vigilance. On verra que parmi les motifs d'inquiétude, il y a notamment la sortie de prison de dizaines de détenus radicalisés qui va s'étaler sur plusieurs mois. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard estime qu'il s'agit d'un réel danger. Les opérations en place nette se poursuivent pour lutter contre le trafic de drogue, bien sûr, notamment dans les prisons, prison des Baumettes à Marseille ou encore à Salon de Provence. On va en parler, on va faire le bilan avec Rudy Mana, policier, parmi les pistes pour lutter contre le narcotrafic. Il y a aussi le gel des avoirs des gros trafiquants, comme c'est déjà le cas pour les terroristes. Enfin, on verra qu'à Nice, une nouvelle fusillade s'est déroulée dans un quartier de la ville. Les policiers ont là encore été attaqués par les délinquants à coups de mortiers d'artifice. Voilà pour les grandes lignes de nos débats pour cette première partie de l'émission en punchline. Mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Adrien Spiteri. Adrien.
Le proviseur de la cité, Maurice Ravel, à Paris, quitte ses fonctions. Le rectorat évoque des raisons de sécurité. Il avait été menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève il y a un mois. Le proviseur lui avait demandé d'enlever son voile. Sébastien Lecornu prévient l'industrie de défense française. Le ministre des Armées appelle à produire plus d'armements et plus vite en raison de la guerre en Ukraine. Il n'exclut pas de faire des réquisitions ou de faire jouer le droit de priorisation. Des mots prononcés lors d'une conférence de presse aujourd'hui en présence de tous les chefs d'état-major. Et puis le déficit public de la France a augmenté en 2023. Il atteint 5,5% du PIB. C'est 15,8 milliards d'euros de plus que ce qu'avait prévu le gouvernement. Conséquence notamment des recettes en baisse l'an dernier. Malgré ce chiffre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, assure que les impôts n'augmenteront pas.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30 pour de nouvelles informations. Louis de Ragnel est enfin arrivé. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence, comment allez-vous?
Je note votre petit retard.
Mais je suis
à peine,
là pour les téléspectateurs,
parce que les
pour
les auditeurs. Les téléspectateurs n'ont rien vu.
Comment?
Ils n'ont rien vu.
C'est l'essentiel.
Et moi, comme vous me connaissez en maîtresse d'école, je signale votre léger retard, mon cher Louis. Mais vraiment, voilà, qui aime bien châtier bien.
Je suis bon élève.
Oui, d'habitude. Nous sommes avec Alexandre Vecchio, journaliste. Bonsoir à vous. Avec Sabrina Medjeber, qui est essayiste et sociologue.
Bonsoir.
Et Rudy Mana, donc porte-parole du syndicat de police Alliance Sud. Je vous ai vu réagir à ce qu'a dit Adrien Spiteri sur ce proviseur du lycée de Paris, menacé de mort parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile. Il a quitté ses fonctions, Sabrina. En réalité, c'est toujours comme ça.
Il a quitté.
C'est celui qui dénonce les faits qui doit partir.
Exactement. C'est l'inversion des valeurs de la société dans laquelle que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que la victime aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus protégée et elle n'a que deux choix, c'est de sauver sa peau, si j'ose dire, c'est de survivre et de quitter ses fonctions. C'est le même cas pour les enfants harcelés qui sont obligés de changer d'établissement scolaire pour trouver un autre établissement scolaire. Mais là où c'est très grave, c'est là, je le dis, c'est une victoire de l'islamisme. C'est-à-dire que ce professeur qui a été menacé par une élève qui en plus a menti, a dû quitter ses fonctions en raison des menaces de mort qui pesaient sur sa personne et sur le lycée. Donc là, c'est très très grave. J'espère que l'Éducation nationale va se saisir de l'affaire. Mais j'attends un communiqué.
Mais vous rêvez, Sabrina.
Absolument. Mais il
vous rêvez.
Vous savez, on parle.
Il se passera rien.
Ma chère Laurence, on parle beaucoup de l'islamisation, etc., de l'exception française, de la singularité française, de la résistance française. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, cette résistance, elle s'étiole et que de plus en plus de professeurs ou de n'importe quelle corporation sont obligés de déménager ou de quitter leur fonction par peur des représailles. C'est une victoire de l'islamisme, il faut le souligner.
Capitulation de la République.
Absolument.
Je vous vois acquiescer.
Et oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord à ce que dit Sabrina et je vais élargir encore plus à toutes les victimes parce que nous, on est confrontés toute la journée à des victimes Et j'aimerais qu'en France, en fait, on fasse une année de la victime, qu'on mette en avant ces victimes. Parce qu'en fait, elles sont souvent doublement ou triplement victimes, parce qu'effectivement, elles sont victimes parfois d'une agression physique. Et puis, suivant où elles habitent, si elles dénoncent les faits, elles sont aussi victimes des auteurs, de la famille des auteurs qui les font fuir.
Et c'est ça, le cas là, dans le
C'est exactement le cas là, et c'est le cas sur plein d'autres affaires, sur des agressions où on voit ça. Et nous, on est particulièrement touchés, les policiers, quand on voit ça, parce que c'est terrible pour elles, quoi. C'est terrible.
Bien sûr. Et là, donc, le proviseur a été remplacé par un autre proviseur. On imagine, Alexandre Devecchio, qu'il aura des marges de manœuvre extrêmement réduites, ce nouveau proviseur.
Oui, parce qu'il va pas commencer. Il va pas commencer. Donc, on voit en tout cas la pression islamiste au quotidien, et finalement un État relativement impuissant qui a édicté des règles, mais qui est condamné finalement à muter les proviseurs qui voudraient les appliquer, tout simplement. Donc c'est une situation ubuesque et inquiétante. Ouais,
et inquiétante, Louis de Ragnel.
Ce que je trouve inquiétant, c'est que j'essayais d'imaginer, en fait, là, pour avoir travaillé un petit peu dans l'administration avant, d'imaginer la réaction de l'administration par rapport à ce que vous disiez, Sabrina, tout à l'heure. En fait, je pense qu'il souffle un soupir de soulagement.
C'est cynique.
Absolument.
Hein,
qu'ils se disent...
L'administration de l'éducation nationale.
Absolument. Donc, je pense qu'ils se disent, ça fait un problème. Alors, c'est terrible
moins.
Pour lui, mais c'est un problème de moins. Et donc, en fait, c'est un symptôme du renoncement à l'islamisme et à tout ce qui heurte l'école.
C'est de la capitulation, Louis.
Capitulation, voilà.
Les professeurs sont égorgés dans nos écoles, Laurence. Ils sont égorgés dans nos écoles.
Bien sûr. Dominique Bernard et Samuel Paty à l'extérieur du collège de Conflans.
Jean-Pierre Robin l'a fait en 2004, son rapport a été entériné. Il a écrit un livre, Les professeurs ont peur, il n'est pas visiblement écouté par Madame Belloubet. Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie à Trappes, a dû démissionner. Samuel Paty a été égorgé.
Dominique Bernard. La solution à chaque fois.
C'est ça qui est gravissime.
On peut schématiser.
Mais qui sommes-nous?
Systématiquement, tout le monde verse des larmes de crocodile quand ça survient.
Exactement.
Tout le monde dit
absolument.
La République ne reculera
comme
pas.
Madame Belloubet est allée là-bas. Elle a dit c'est
dans le silence, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, les personnes se sentent toutes, le symptôme est même,
lâchées,
finissent par reculer. Et puis, en fait, à chaque fois, la hiérarchie est en fait soulagée et se dit
« Ah, oui, c'est ça.
T'as un problème en moins à gérer. »
Donc là, le proviseur, donc c'est pour des convenances personnelles, Rachel Kahn.
Lié à sa sécurité, quand même.
Et qui, lié à sa sécurité, c'est que ce proviseur de Paris, qui avait demandé à une jeune femme de retirer son voile et qui a été menacée de mort, a quitté ses fonctions. On a tous fait le constat d'une défaite totale, en fait.
Renoncement.
Oh non, bien sûr. Lâcheté. Capitulation.
Et puis, il faut dire que les réseaux sociaux alimentent aussi... un sentiment justement d'illégitimité, c'est-à-dire que lorsqu'on a des professeurs qui veulent faire leur travail sur la connaissance, faire grandir nos petits, travailler sur le fait que l'école de la République c'est fait pour éduquer d'un point de vue de la connaissance et de faire des citoyens éclairés, ils ne sont pas épaulés malheureusement par l'ensemble de la société par ailleurs.
Évidemment, et là je rappelle que dans l'affaire de ce proviseur, il y a un jeune homme de 26 ans originaire des Hauts-de-Seine qui a été interpellé dans cette affaire de menace de mort, et il y en a un autre qui lui était à Trouville dans le Calvados. Donc ça c'est la merveille des réseaux sociaux, on menace de n'importe où et en disant n'importe quoi, il a été placé en garde à vue là aussi dans cette affaire et remis en liberté. On va embrayer sur la menace terroriste parce qu'elle est omniprésente. Je vous parlais de ces lycées en PACA, une dizaine de lycées en PACA qui ont été visés par des menaces d'attentat. Là encore, c'est des messages transmis par des espaces de travail numérique qui touchent les élèves et la direction. Gabriel Attal parlait tout à l'heure devant les députés d'une menace islamiste qui ne s'est jamais éteinte en France. On va l'écouter.
La menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. Autour du président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous ne laisserons jamais une minute de répit à ceux qui veulent s'en prendre à la France, s'en prendre aux Français. Notre main ne tremblera jamais face au terrorisme, jamais face à l'islamisme.
Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces phrases-là, on les a entendues mille fois, peut-être. C'est bien de les dire, c'est bien de les redire, on dit Mana.
Oui.
La main de la France ne tremblera jamais. Oui, mais on a eu des dizaines et des centaines de morts sur notre sol.
On l'a entendu beaucoup de fois. On a déploré beaucoup de victimes. On a des policiers aussi qui sont tombés sous les coups des balles des islamistes radicaux. Et souvent, on est un peu seul nous, pour faire face à ces individus. On sait qu'en France, il y a des individus fichés S qu'on n'arrive pas à expulser, alors qu'on sait qu'ils peuvent être particulièrement dangereux.
C'est la responsabilité du gouvernement.
Et ça, franchement, c'est difficilement audible pour les policiers que nous sommes, parce qu'on a des familles, nous aussi. Hein. Et vous savez, nos épouses, nos enfants, ils disent « mais tu vas travailler, mais si tu tombes sur lui, qu'est-ce qui va se passer ?» Ben, ça va mal se passer. Donc là, on a relevé encore le niveau de Vigipirate. Bon, vous savez, nous, ça fait depuis 2015 qu'on est là-dedans, qu'on sait qu'il peut arriver un attentat tous les jours. On part, tous les policiers de France partent
chaque
au boulot
matin
en se disant on peut avoir un attentat aujourd'hui qui peut faire des dizaines de victimes, qui peut faire dans un commissariat, on peut être attaqué. On l'a vu aussi. Et ça, c'est terrible dans la tête des policiers. Et là-dessus, ils réussissent à nous mettre ça dans la tête. Et croyez-moi que c'est pas évident pour nous. Mais en fait, nous, on est un peu dedans. C'est notre job. On est façonnés comme ça. Mais c'est surtout pour nos familles que c'est difficile.
Alexandre Devecchio, on entend le Premier ministre, c'est bien. Il a un discours volontariste sur le terrorisme, mais il y a des gens qui, encore une fois, qui sont des menaces pour notre société.
C'est contredit par le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Quand l'État décide de déplacer un proviseur parce qu'il est menacé, c'est une forme de capitulation, si vous voulez. Donc on voit bien que dans les faits, malheureusement, nous avons la main qui tremble. Tant, de toute manière, qu'on restera dans ce cadre juridique là, ce sera extrêmement compliqué de faire face à cette menace, puisque on a un cadre juridique, notamment européen, qui met par-dessus tout les libertés individuelles. Or, je crois qu'il est temps de protéger la collectivité.
En sortant de ce système-là. Okay.
En tout cas, en le réformant très profondément. Il ne s'agit pas de sortir de l'état de droit. Il s'agit d'adapter l'état de droit à la réalité actuelle.
Parce que quand on voit les images de la Russie, effectivement, et la tête des terroristes dans le box des interpellés, on se dit, effectivement, là, on voit qu'il n'y a pas d'état de droit en Russie. Hein. Sabrina.
Oui, la menace terroriste islamiste continue de planer, mais enfin, ça fait maintenant depuis 2015 qu'elle a frappé la France. Mais bon, la menace terroriste, elle a eu des soubassements idéologiques depuis 40 ans. On parlait tout à l'heure de l'école et de l'islamisme à l'école. Moi, je rappelle quand même, et la gauche a une énorme responsabilité, dans l'islamisation de l'école, les propos de Monsieur Lionel Jospin, interrogé par Elisabeth Chemla, qui est journaliste, qui avait couvert l'affaire de Creil, pour le Nouvel Obs, absolument, pour le voile.
Ok, ça nous ramène longtemps.
Tout ça une généalogie. Chez ma chère Laurence, qui est implantée en France depuis 40 ans, il lui avait dit « je me fiche que la France s'islamise ». Et depuis, qu'est-ce qui a été fait pour l'école? Alors, on a voté, il y a eu la commission Stasi 2003, la loi de 2004, etc. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le proviseur qui a dû démissionner, il a démissionné à cause d'une fille qui est venue... en vertu au regard de l'interdiction du port du voile. C'est-à-dire qu'elle-même commet une infraction, elle monte une cabale contre lui.
Oui, mais là, on n'est pas dans le registre du terrorisme, là, Sabrina.
Là, on n'est pas. Mais tout ça, Laurence, est un agrégat. Vous avez des offensives idéologiques, vous avez un communautarisme local qui est entretenu, je suis désolée, par des élus, et vous avez effectivement ce terrorisme qui est un internationalisme exogène, endogène, multifactoriel, avec différentes modalités opératoires qu'il est impossible aujourd'hui, malheureusement, ni d'appréhender, ni d'endiguer. On n'est plus aujourd'hui, malheureusement, dans le terrorisme du Bataclan avec une horde de terroristes.
Écoutez,
et des Kalachnikovs.
Souhaitons-le.
Il y a même aujourd'hui.
Rien n'est sûr.
Souvenez-vous, ma chère Laurence, il y a quelques semaines, un enfant de 11 ans à Nice avait un projet d'attentat. Un enfant de 11 ans sur la base de coups de couteau. Donc, comment faire pour appréhender ces enfants? Et d'ailleurs, même Céline Berton, la nouvelle directrice de la DGSI, l'a dit. Notre première inquiétude, ce sont les mineurs radicalisés.
Alors, il y a une autre inquiétude aussi. Je vous passe la parole dans un instant, Louis et Rachel. Elle concerne les détenus radicalisés qui sont en train de sortir.
Ah oui, vous avez ça également.
On va écouter Jean-François Récard, le procureur national antiterroriste, qui s'inquiète justement de ce nombre de détenus qui, petit à petit, sont relâchés dans la nature.
Les détenus radicalisés et les détenus terroristes et les sortants de prison. Je ne vous le cache pas, c'est une de mes inquiétudes principales. Et là encore, pourquoi? C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est les chiffres. C'est toujours parce qu'on est passé de quelques unités, de quelques dizaines, à une gestion de masse.
Voilà, une gestion de masse, Rudy Mana. Quand le procureur national antiterroriste dit « c'est ma grande inquiétude », on mesure le poids qui pèse sur ses épaules.
Oui, franchement, quand le procureur national antiterroriste tient des propos comme ça, franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce qu'il est fort probable que ces individus en prison ne sont pas devenus des douze agneaux.
Non.
Ça veut dire qu'ils se sont peut-être encore plus radicalisés, qu'ils ont réussi à radicaliser des gens qui étaient proches d'eux en cellule. Et ils vont sortir et ils vont être sur la voie publique en France, peut-être à un mois ou deux mois des JO. Oui, bien évidemment, ça contribue à l'inquiétude de la totalité de la population. Parce que tous les gens que je croise dans la rue me posent cette question et me disent « Mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour les JO ?» C'est la question qu'on se pose tous.
Oui,
alors, on va être là, on va faire le maximum. Hein. Franchement, on va faire tout ce qu'on peut. Mais le risque zéro, je crois que c'est le président Macron qui l'a dit.
Qui l'a dit
le risque zéro n'existe pas. Et là, il a raison. C'est impossible de tout canaliser.
Tout rationaliser. Louis de Ragnel, là, les détenus radicalisés, on parle de dizaines d'individus. Hein.
450.
Ah oui, centaines.
Oui, absolument.
450. Ils sont tous libérés, là.
Non. Alors, c'est progressif. Il y en a déjà beaucoup qui ont été libérés, qui avaient été condamnés après les attentats de 2015 et toutes les attaques terroristes. En fait, la difficulté, donc, il y a deux types de détenus. Il y a les détenus condamnés pour terrorisme, et il y a les détenus de droit commun qui se sont radicalisés et qui sont susceptibles de passer à l'acte. Donc il y a deux catégories de personnes. Beaucoup d'entre eux ont été condamnés avant le renforcement de la législation et donc le renforcement des peines, des sanctions. Donc il y en a certains qui ont été condamnés au tout début des attentats et donc qui ont pas pu avoir des sanctions beaucoup plus lourdes s'ils avaient l'intention de commettre des attentats aujourd'hui, par exemple le même attentat que celui qu'ils avaient l'intention de commettre il y a 3 ans ou 4 ans.
Mais ils sont surveillés là, Louis, rassurez-moi.
Oui, ils sont surveillés. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, la surveillance. Oui. Donc ils sont surveillés dans le cadre de ce qu'on appelle les GED, les groupes d'évaluation départementaux. Chaque mois, tous les préfets de France réunissent autour de la table le patron du renseignement pénitentiaire, les directeurs de prison, le renseignement intérieur, le renseignement territorial, bref, tous les acteurs de la sécurité du département. Et ils font la liste de tous les détenus fichés S ou FSPRT à suivre. Et une fois que quelqu'un a purgé sa peine, ben il est en liberté. Donc il y a des surveillances techniques.
On ne surveille pas.
Mais si pour les très très hauts, gros poissons, il peut y avoir des surveillances humaines H24. Mais c'est vraiment pour une poignée de personnes. Il faut imaginer le coût que ça représente. Si vous voulez mettre en place des effectifs de police...
À peu près 25 policiers pour suivre une personne 24 heures sur 24.
Pour
25 policiers, c'est énorme.
Pour un système totalement étanche, c'est à peu près ça. Avec les jours de congé, si vous comptez à peu près sur ça fait 25 personnes.
750 personnes.
Donc en fait, le sujet de fond, Laurence, et il a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'état de droit. Aujourd'hui, on est dans l'état de droit. On ne peut pas empêcher, et on ne pourra jamais, dans le cadre de cet état de droit, empêcher quelqu'un de retrouver la liberté après sa peine de prison. Et donc, on est en plein, le débat, il est là. Est-ce que, en fait, à la fin de sa condamnation, on dit à un détenu, monsieur, vous êtes trop dangereux pour la société, et donc, de manière préventive, on vous prive de votre liberté. Il y a des mesures administratives qui s'appellent les MICAS, où on essaye de les harceler un petit peu. On leur dit, vous devez aller toutes les semaines au commissariat ou tous les jours. Vous n'avez pas le droit de sortir de tel périmètre. Mais on voit bien, en fait, qu'on a touché, on est au maximum, globalement, de ce qu'on peut faire.
Et
donc, en fait, aujourd'hui, le vrai débat philosophique, moral et politique qui se pose, c'est est-ce qu'on continue à essayer de grappiller un tout petit peu les libertés aux mecs, et là on est à la tangente, on voit bien qu'on peut pas aller plus loin, ou est-ce qu'on sort de ce cadre-là et on assume de se dire qu'on est très menacé, que maintenant en fait on n'est plus dans un cadre défensif mais on est dans un cadre offensif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie de harcèlement déradicalisé, de harcèlement des islamistes.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que...
On crée des structures à part.
Ça veut dire qu'on crée des structures à part. Ça veut dire que...
On
va se dire la vérité.
Il
y a plein de détenus qui, après leur condamnation, sont visés par des MICAS, les mesures administratives de surveillance, qui vont pas aux convocations. Les policiers qui...
Quand il y a des MICAS où ils sont censés venir tous les jours au commissariat, ça veut dire qu'il est particulièrement sensible. Et à ce moment-là, on intervient. S'il y a un jour où il ne vient pas, on intervient.
Mais vous avez tellement de... Moi, j'ai des histoires, mais vous avez raison.
Il y en a pour certains où ce n'est pas tous les jours. Effectivement, ils peuvent ne pas venir.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est légalement, on est quasiment au maximum de ce qu'on peut faire.
Oui.
Donc, en fait, on ne va pas faire des nouveaux projets de loi, des nouvelles propositions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. Je vous donne deux exemples, deux symptômes. Aujourd'hui, je trouve du renoncement. Le premier, ça, c'est sur un autre sujet, c'est sur la question migratoire. Aujourd'hui, plutôt que d'assumer d'expulser les migrants, on les répartit sur le territoire et c'est les maires maires de petites de communes de province qui sont chargés de les accueillir et d'assumer les responsabilités de l'État. Et le deuxième déplacement, c'est celui qu'on a évoqué, c'est celui du professeur. Bon, bah, le professeur, lui, a demandé à faire appliquer la loi. Okay. Il est déplacé. Et donc, ce sont des renoncements moraux. Et tant qu'on renoncera comme ça et qu'on ne soutiendra pas, on n'y arrivera pas.
Mais en même temps, on a un État de droit.
Mais l'État de droit, il doit s'adapter, ce que disait Zovecchio.
On n'est pas la Russie, Rachel.
Non, j'ai pas dit qu'il fallait être violent et méchant. En fait, c'est la différence entre la vengeance et la force. Ce qu'il faut, c'est être fort.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Et alors, justement, pour être fort, là, on parle vraiment du dur, des radicalisés, des terroristes, ceux qui ont un projet, etc. Je pense que nous avons tous une responsabilité en tant que citoyens sur le soft, entre guillemets, le soft power de cette islamisation. Et en réalité, être ferme et fort sur le fait qu'il y a un cheval de Troie aujourd'hui qui met à mal et qui harcèle notre République, c'est toute l'idéologie, comme vous le disiez, décoloniale, toute l'idéologie dite antiraciste. Et pour moi, il y a eu une véritable bascule, même si on avait déjà tous les éléments d'une bascule, du séparatisme à travers les mots, ceux qui traitent les gens de... Enfin, qui se disent racisés, ceux qui se disent contre l'Occident, etc. La bascule, ça a été la manifestation après le 7 octobre. À partir du moment où on fait une manifestation pour la République et que certains dénoncent que cette manifestation-là, c'est une manifestation islamophobe, et qu'on a courbé les chines en acceptant ce mot-là, presque, eh bien, notre force, elle est déjà entachée.
Oui, absolument. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose ? Après, on écoutera Olivier Marleix.
C'est une précision peut-être technique, mais je suis tout à fait favorable à ce qu'on adapte l'État de droit. Et avant qu'on soit au niveau de la Russie, il y a de la marge. Effectivement, il ne faut surtout pas caricaturer le débat en prétendant qu'on en est très loin. On est un pays qui n'arrive pas à choisir qui vient sur son territoire. Ce qui devrait être une simple décision démocratique. Donc il faut juste revenir à un peu de raison. Et puis l'État de droit, c'est aussi ce que décide la souveraineté populaire. Donc c'est le législateur qui fait adapter l'État de droit. L'État de droit, c'est pas quelque chose de figé pour toujours. Et en plus de l'État de droit, je pense que sur la question spécifique du terrorisme islamiste, il aurait fallu mettre en place des tribunaux d'exception. Quand je dis des tribunaux d'exception, c'est avec des magistrats spécialisés.
Il y a un
ce qui nous aurait évité de les... Oui, mais on les a beaucoup jugés, par exemple, pour ceux qui avaient été à l'étranger. C'est très difficile d'établir les preuves de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Donc finalement, ils sont jugés pour des faits pas si graves que ça. Très probablement, certains sont meurtriers, ont commis des actes terroristes, mais c'est très difficile à prouver. Donc là, il aurait fallu des peines adaptées et pas les mettre 5 ans en prison où ils vont se radicaliser encore plus et sortir encore plus dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser avec des
tribunaux spécialisés. On écoute Olivier Marleix.
Effectivement, il y a une cécité idéologique du législateur. Je rappelle que Farhad Khosrokavar, je vais y arriver, qui est sociologue franco-iranien, a travaillé depuis 30 ans sur la question de la radicalisation en prison. Il a rendu un rapport parlementaire en 2006. Il n'y a jamais eu de loi sur la radicalisation des détenus. Jamais. Et pourtant, il y a des études empiriques à travers tous ces ouvrages depuis 20 ans.
Tout ça crée un contexte évidemment très inquiétant pour les Français. Ils comprennent bien que la situation est très tendue au plan de la sécurité. On va en parler dans un instant avec le trafic de drogue, mais aussi sur le plan du terrorisme. Écoutez Olivier Marleix, des Républicains, qui lui estime que le gouvernement surjoue la menace terroriste justement au service d'une communication anxiogène.
Le gouvernement fait des choses totalement incohérentes. On ne peut pas à la fois dire aux Français que la menace elle est au maximum, surjouer comme toujours cette gravité. Évidemment que la menace terroriste elle existe, la menace islamique elle est là. Je ne suis pas sûr qu'il faille en parler matin, midi et soir pour protéger les Français. Le gouvernement aime la communication anxiogène, vit de ces tensions qu'il crée en permanence dans le pays. Et surtout l'incohérence c'est par rapport à ce qui se prépare sur les Jeux Olympiques. On se prépare à accueillir, on voulait accueillir 600 000 personnes sur les bords de la Seine pour une cérémonie d'ouverture avec tous les balcons qui seraient ouverts, des espaces extrêmement difficiles à contrôler. Donc elle est où la cohérence dans tout ça ?
Alors, moi, si j'étais Olivier Marleix, je serais beaucoup plus prudent.
Oui.
Parce que la communication anxiogène du gouvernement, si on a un attentat dans les prochains jours, là, évidemment, ça ne sera pas la même musique.
Oui. Et croyez-moi, Laurence, que c'est possible. On est dans le domaine du possible tous les jours. Donc, effectivement, moi, j'aurais évité de dire ce genre de choses, surtout pour un parti d'opposition. Je pense que le gouvernement fait de la communication, mais ils ont sûrement des informations que même nous, on n'a pas. Donc, franchement, là-dessus, moi, moi, j'éviterai de communiquer en tout cas de cette manière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des policiers tous les jours pour essayer de lutter contre ça. Et rien que pour cela, déjà.
Et des militaires de Sentinelle aussi.
Exactement.
Pour leur rendre hommage.
Et des militaires de Sentinelle.
Oui, rapidement, il nous reste 30
minutes. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, il y a quelque chose que je peux comprendre. C'est pas exprimé avec ces mots-là au sein des oppositions. C'est qu'il y a 15 jours, on expliquait que la guerre était à nos portes et qu'on allait peut-être envoyer des soldats français combattre en Ukraine.
C'est toujours d'actualité. Hein.
Bah non, puisque le ministre des Armées a dit dans une matinale radio qu'il n'y aurait pas de soldats français envoyés en Ukraine.
Mais c'est pas le président.
Donc oui, enfin, j'ose espérer qu'ils sont alignés.
Oui,
je suis très légaliste, peut-être trop parfois. Donc il y a eu ça pendant 15 jours. Ensuite, effectivement, il y a la menace terroriste. Moi, je pense qu'elle n'est pas feinte. Après, il y a des choses étranges. C'est-à-dire que, pareil, je vous donne un exemple. Hier, le gouvernement dit on va mettre en état d'alerte 4000 soldats de l'opération Sentinelle supplémentaire. En état d'alerte, ça ne veut pas dire déployé.
Donc, il y en a déjà 3000 déployés.
Donc si réellement il y avait une dramatisation et qu'il y avait un scénario imminent d'attaque terroriste, le gouvernement aurait déployé sur le terrain.
Je ne dis pas ça
parce que justement je pense que c'est très imprudent de dire ça, mais il y a quelque chose que je peux comprendre dans les oppositions quelles qu'elles soient, le fait qu'en fait dès que vous êtes dans un climat où tout est tellement terrorisant, il y a la guerre partout, que dès que vous essayez de poser une question, on vous répond guerre en Ukraine, on vous répond attaque terroriste. Et donc
Le
débat est quand même pas simple dans ces conditions-là.
On se retrouve dans un instant. Vous restez encore avec nous un tout petit peu, parce qu'on va parler des opérations PlaceNet et de l'idée de taxer, en fait, de geler les avoirs des narcotrafiquants, comme c'est fait pour les terroristes. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Adrien.
Les opérations de sauvetage se poursuivent à Baltimore après l'effondrement d'un pont. Au moins 6 personnes tombées à l'eau sont toujours recherchées. Le pont Francis Scott Key a été percuté ce matin par un porte-conteneur. Une perte momentanée de propulsion aurait conduit à la collision. Les services secrets occidentaux et ukrainiens sont directement impliqués dans l'attentat près de Moscou. C'est ce qu'affirme le patron des services de sécurité russes. L'attaque de vendredi a pourtant été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Hier, Vladimir Poutine a admis pour la première fois que les assaillants présumés étaient des islamistes radicaux. Et puis la montée de l'antisémitisme dans les universités françaises inquiète. Depuis le 7 octobre dernier et l'attaque du Hamas en Israël, 67 actes antisémites ont été recensés dans 82 établissements d'enseignement supérieur, contre 33 l'an dernier. Le président de France Université assure qu'il n'y a aucune complaisance vis-à-vis des auteurs.
Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ces nouvelles. J'aimerais qu'on parte maintenant direction le Bas-Rhin, puisque 3 personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête de la disparition de la jeune Lina. Vous savez, cette jeune fille de 15 ans qui a disparu le 23 septembre alors qu'elle devait prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Depuis, aucune nouvelle. On va rejoindre nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Olivier Gangloff qui se trouvent sur place. Bonsoir à tous les deux. Régine, en quoi ces 3 gardes à vue sont importantes aujourd'hui?
Écoutez Laurence, ces 3 gardes à vue sont importantes puisque c'est la première fois depuis 6 mois que des personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête concernant la disparition de Lina. Cela donc concerne un homme qui a été interpellé ce matin à son domicile et un couple qui avait été donc à qui il avait été demandé de se présenter à la gendarmerie et qui a été placé en garde à vue dès leur arrivée. Alors ces gardes à vue en fait vont permettre aux enquêteurs de procéder à des vérifications, puisqu'il semblerait, selon une source proche du dossier, qu'il existe des incohérences dans leur emploi du temps le jour de la disparition de Lina. Lina, vous l'avez dit, a disparu le 23 septembre. Elle a quitté le domicile de sa mère à Plaine pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, qui se situe à moins de 3 km, un trajet qu'elle avait l'habitude d'effectuer à pied. Des témoins affirment l'avoir vue entre 11h15 et 11h30. À 11h22, son téléphone a cessé d'émettre et malgré de nombreuses battues avec notamment des équipes cynophiles, plusieurs plans d'eau ont été aussi sondés. Il n'y a toujours aucune trace de Lina qui a été retrouvée.
Merci beaucoup Régine Delfour, Olivier Gangloff. On pense évidemment à sa famille, Rodimana, qui vit un calvaire depuis le 23 septembre. Où est passée cette jeune fille? Aucune trace d'elle. Évidemment, tous les indices sont épluchés par les enquêteurs. Hein.
Voilà, et ça met parfois du temps. Comme il y a eu des gardes à vue, ça permet d'auditionner des individus pour qui on a des soupçons et ça permet pendant le temps de la garde à vue, ça ferme les portes ou ça les ouvre entièrement. Et à ce moment-là, on a un vrai présumé coupable. Donc c'est voilà, la police travaille toujours parfois. Parfois, on nous reproche que ce soit un peu long. Mais en fait, les enquêtes, c'est souvent très long. Et on ne peut pas trouver des meurtriers en deux jours quand on n'a aucun élément au départ. C'est ça, le vrai boulot de policier. Alors, parfois, ça dure un an, deux ans, trois ans. Mais c'est le temps de l'enquête qui est comme ça. Et parfois, on les trouve très vite. Tant mieux. Mais tant mieux si ça amène à quelque chose, si ça amène à avoir d'autres informations.
On pense aussi à la disparition du petit Émile au Vernet. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour ce petit garçon. J'aimerais parler maintenant de ce que vous faites, vous, sur le terrain, les policiers, avec peut-être d'abord des images. Une nouvelle fusillade à Nice, dans le quartier des Moulins. Encore une fois, c'est surréaliste. Regardez cette séquence et je vous passe la parole ensuite. Rodi Mana, ça défouraille là pour quelle raison?
Oui, ben écoutez, sûrement des guerres de gangs dans les quartiers. Il faut savoir que bon, l'avantage qu'on a à Nice, c'est que c'est filmé, parce qu'à Nice, maire se préoccupe de la sécurité de ses concitoyens. Si vous étiez à Marseille, il n'y aurait pas de vidéo, hein, je vous le dis, parce qu'il n'y a pas de caméra là-bas, malheureusement. Donc déjà, ça c'est bien. Ensuite, Nice, ils sont particulièrement touchés par des jeunes migrants. Beaucoup de jeunes migrants tunisiens qui viennent par la frontière italienne Menton et qui arrivent vraiment à masse à Nice, qui sont récupérés par les réseaux parce que ces réseaux-là, ben, ils utilisent. En fait, c'est du mauvais traitement à humains qu'ils font. Je vous assure, c'est terrible. Et ils les récupèrent et ils les utilisent dans les réseaux. Parfois, ils les torturent. Parfois, ils sont extrêmement violents avec eux. Il y a une ubérisation de l'emploi du trafic de stupes. Ils utilisent ces jeunes-là qui arrivent donc souvent de Tunisie pour Nice. On n'arrive pas à les expulser, malheureusement, parce qu'ils se déclarent mineurs ou ils sont mineurs, mineurs non accompagnés. Donc on se retrouve devant un problème qui est quasi insoluble. Et Nice vit notamment dans ce quartier des Moulins depuis quelques mois déjà.
Au rythme des fusillades.
Ouais. Exactement,
Avec des policiers, quand ils interviennent, qui se font...
Oui, effectivement. Il y a eu de nouveau des fusillades, apparemment, cet après-midi. Il y a eu des individus qui ont été à nouveau blessés. Et dès que les policiers arrivent, vous l'avez bien décrit, Laurence, ils s'en prennent aux policiers. Donc on est obligé, nous aussi, de riposter. Mais le quartier des Moulins est devenu extrêmement tendu à Nice.
Alors, il faudrait peut-être faire des opérations place nette à Nice. Ouais. Vous voulez poser une question, Louis ?
Non, Rudy Mana vient de dire quelque chose de très important. Il parlait des expulsions ou l'impossibilité d'expulser ces personnes. Et en fait, cette impossibilité s'est aggravée depuis une décision du Conseil d'État le 2 février dernier qui maintenant en fait empêche la police de pratiquer ce qu'on appelle la non-admission. La non-admission, ça, en fait, dès que vous êtes dans une zone frontalière, le préfet du département a la possibilité d'expulser tous les migrants qui sont interceptés dans la bande des 20 km à l'intérieur du territoire français sans passer par les procédures administratives. C'est-à-dire qu'on considère que la personne n'a jamais foulé le territoire français.
Et donc, on les reconduit automatiquement.
Et on les reconduit automatiquement.
Et là, ça marche plus.
Le Conseil d'État, le 2 février dernier, a mis fin et a dit qu'on ne pouvait plus pratiquer la non-admission. Concrètement, que se passe-t-il? Eh bien, les services de police et de gendarmerie et administratifs, donc la préfecture des Alpes-Maritimes, tous ces services-là sont débordés, puisqu'en fait, il faut maintenant rentrer des procédures, en place le processus d'admission pour les demandes de séjour, les demandes d'asile. Donc le système est complètement saturé. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez beau mettre, on connaît, il est intervenu plusieurs fois ici, le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, qui est un préfet qui est extrêmement ferme, qui a beaucoup d'autorité, mais vous pouvez mettre le préfet le plus ferme qui soit, si vous privez l'autorité administrative de ses capacités, eh bien, il ne faut pas s'étonner, en fait, qu'on se retrouve dans cette situation.
On est en plein dans le débat sur l'état de droit aussi, parce que
ça va s'aggraver dans les prochaines semaines.
Pour compléter, je vous donne un élément encore plus probant. Effectivement, vous rentrez dans une procédure normale, alors qu'effectivement, avant, on faisait des certificats de non-admission, on les renvoyait immédiatement.
30 à 40 000 par an. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 à 40 000 personnes par an.
Le col de Montgenèvre qui est particulièrement...
30 000 à 40 000 qu'on pouvait expulser avant, qu'on ne peut plus expulser.
Et en fait, aujourd'hui, vous faites des procédures normales. Donc, une procédure normale, vous devez mettre dans les cellules, et dans les cellules, comme on doit respecter l'humain, on ne peut pas en mettre beaucoup. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Montgenèvre que je connais bien aussi, ils peuvent en interpeller 10. Mais s'il y en a 40 qui passent à côté, ils peuvent plus faire de
procédure. Mais déjà, les CRA et tout, on en a déjà parlé, les centres de rétention administrative, ça marche pas. Mais si, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils passent en procédure classique. Et ça marche déjà pas. La procédure classique avec les centres de rétention administrative, on en a déjà parlé plein de fois, ça ne fonctionne pas. Donc on va sursaturer quelque chose qui est déjà saturé.
Alors, sur les opérations PlaceNet, on a appris aujourd'hui qu'elles se déroulaient aussi en prison, ce qu'on ne savait pas. Il y en a eu au Beaumet et à Salon de Provence. On va voir un exemple avec Adrien Spiteri, avec notamment des saisies de téléphones portables qui sont très utilisées par les narcotrafiquants depuis leurs cellules.
Depuis des cellules comme celle-ci, des dealers continuent de gérer leur trafic. Pour endiguer le phénomène, des brigades cynophiles et une équipe régionale d'intervention et de sécurité ont été mobilisées la semaine dernière dans les prisons des Baumettes et de Salon de Provence. L'offensive s'inscrit dans le cadre des opérations PlaceNet XXL. Selon nos informations, 18 téléphones mobiles, 6 cartes SIM et 60 grammes de résine de cannabis ont été saisis dans 50 cellules où vivent des personnalités impliquées dans la criminalité organisée. Ces découvertes n'étonnent pas cette professionnelle du secteur.
C'est une réalité dans l'ensemble des prisons, pour ne pas dire que chaque détenu a un téléphone portable, mais pas loin.
En 2023, 53 000 téléphones et accessoires ont été retrouvés en prison, contre 42 000 en 2019. Les données des téléphones saisis lors des opérations vont être analysées par les enquêteurs.
Rodimana, donc là, on va carrément dans les prisons, parce que le trafic se déroule aussi dans les prisons.
Oui, alors là, par contre, j'ai le regret de vous dire que demain, ils auront, ou après-demain, ils auront de nouveau des téléphones, puisqu'ils sont livrés par drone. Directement, ouais, il y a des drones avec des individus à l'extérieur qui envoient des drones.
Il n'y a pas de filin de sécurité ?
Pas partout, pas dans toutes les prisons, malheureusement. Ouais. Donc les drones arrivent, ils les livrent quasiment à la fenêtre avec des stupéfiants et des téléphones. Donc là, pour le coup, les prisons, c'est extrêmement compliqué. Et le procureur de la République, lors de son audition à la commission sénatoriale, il en parle très très bien. Et il dit que dans les prisons, c'est devenu extrêmement difficile. Oui. Et que ça part souvent de là. C'est devenu... pas des zones de non-droit, parce que ça serait terrible de dire ça, mais c'est devenu
surtout
très
pour
difficile.
Pour le personnel pénitentiaire qui a un boulot extraordinaire.
Franchement, c'est des gens extraordinaires qui sont pas très bien payés.
Il y a une campagne de recrutement là sur les médias, ils disent devenir agent pénitentiaire.
C'est très difficile de recruter, je leur tire mon chapeau à ces gens-là, parce que c'est extrêmement difficile comme boulot, et ils le font avec beaucoup de courage, ça, parfois, et de détermination.
Vous avez raison. Sur le narcotrafic, Alexandre Vecchio, le ministre de l'Économie, a proposé de geler les avoirs des narcotrafiquants. Tout comme c'est déjà fait pour les terroristes.
Oui. Ce qui me surprend, c'est que ce ne soit pas déjà fait.
Oui, c'est ça. Mais moi aussi.
C'est juste incroyable. Oui, très bien. Mais ça paraît étonnant qu'on n'ait pas commencé par là.
Et alors, quand il s'agit d'avoir en France, OK, mais en plus, les avoir à l'étranger, comment
la procédure était
quand même... Aucune idée. Je ne sais pas comment
faire. En Italie, ils l'ont mis en place depuis quelques années. Ça marche très, très bien. Et en fait, en France, je pense que le problème, c'est la présomption d'innocence.
En fait, ils ne peuvent pas les saisir.
Mais quel est le problème? Si on saisit 3 millions d'euros sur quelqu'un et que dans 5% des cas, il va être relaxé, quel est le problème de lui rendre s'il est relaxé? Je ne comprends pas ça. On devrait les saisir. En Italie, ils saisissent. S'ils sont acquittés, ils le rendent. Il n'y a pas de difficulté. Mais quel est le problème de saisir cet argent, de le remettre dans des administrations françaises, franchement, qui ne sont pas très bien dotées. Mm-hmm. Et puis, si des fois, ils sont relaxés, on leur rendra l'argent. Il n'y a pas de difficulté là. Et là encore, on se crée des difficultés supplémentaires.
Bien sûr. Ouais, c'est toujours le même principe. On va continuer. Je voudrais qu'on écoute maintenant un échange qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale cet après-midi entre le ministre du Logement, qui était interpellé par une députée Rassemblement national, sur la question des SDF et des migrants qui sont sortis des métropoles, notamment Paris, pour être déplacés vers les régions. Écoutez, et la question et la réponse du ministre du Logement, parce qu'il y a aussi le maire d'Orléans qui a poussé un coup de gueule hier en interpellant Gérald Darmanin sur l'arrivée irrégulière de migrants dans sa ville.
Quel mépris pour nos territoires et leurs élus locaux. Avez-vous tellement honte des conséquences visibles du laxisme migratoire de votre gouvernement que vous cherchez à le cacher aux yeux des autres pays du monde que nous recevrons à l'occasion des JO? Il semble effectivement plus facile d'affréter des quarts de migrants en situation irrégulière vers la province que des charters pour les expulser lorsqu'ils n'ont rien à faire en France. Alors que les centres d'hébergement d'urgence sont saturés même dans nos territoires, ces migrants en provenance de Paris sont logés pour une durée de 3 semaines dans des hôtels aux frais du contribuable. Mais ensuite, que deviennent-ils ?
Grâce à l'action de l'État, du ministère et des associations, 200 000 sans domicile fixe trouvent refuge et trouvent un toit dans notre pays. C'est 200 000 au niveau national, c'est 100 000 en Île-de-France. Malheureusement, étant donné la saturation des places en Île-de-France, tout le monde ne trouve pas de solution en appelant le 115. Et c'est pourquoi, sans aucun lien avec les Jeux Olympiques, dès mars 2023, le gouvernement a mis en place une politique de desserrement. Madame la députée, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'un maximum de sans-abri trouve un toit pour s'abriter. L'enjeu, ce n'est pas de trier les SDF en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine, comme le Front National semble manifestement le préconiser.
Voilà pour la réponse du ministre du Logement qui dit en fait ce sont des SDF et pas des migrants. Et Wilder Hagnell, il cite le chiffre de 200 000 SDF. Donc vous dites qu'il se trompe ?
Tout est faux en fait. Non mais au niveau du fond, oui, tout est faux parce qu'en fait la plupart des migrants qui sont à Porte de la Chapelle ou qui sont donc dans le nord, dans l'est de Paris, sont aussi sans domicile fixe. Donc ils jouent sur les mots. Évidemment que ce sont des sans domicile fixe. La plupart de ces gens sont dans des situations précaires.
Ensuite, ils vivent dans des tentes, etc.
Ensuite, c'était une opération. Moi, je me souviens, c'était l'ancêtre de l'opération PlaceNet. C'est comme ça qu'on nous vendait. Alors c'était pas aux journalistes. Ils essayaient de pas trop communiquer là-dessus, mais il y avait une volonté du ministère de l'Intérieur de, entre guillemets, nettoyer Paris avant les Jeux Olympiques. Et donc ça, c'est un plan
qui était assumé
en interne au ministère de l'Intérieur. Ouais. Et enfin, moi, ce que je trouve terrible dans cette histoire, c'est que là, le ministre essaye de montrer qu'en réalité, eux, ils sont humanistes et ils veulent donner des places, des logements à des SDF. Bon, évidemment que tout le monde est pour faire en sorte que les SDF soient logés. Mais là où c'est complètement faux, c'est que en réalité, là, l'objectif, c'est de cacher la misère et d'imposer à des maires de communes de province d'assumer les conséquences de non-choix politiques décidés par Paris. Et c'est là où je trouve ça à la fois hypocrite et moralement très gênant.
Y compris d'ailleurs le gouvernement et la mairie de Paris qui donnent de l'argent aux associations de migrants. Donc on assume quand on...
Puis que deviennent-ils des années après, des mois après?
Oui.
Alors, parce qu'il y a des enfants.
Et ensuite, de manière implicite, en réalité, le ministre a rappelé qu'on avait déjà beaucoup de SDF en France. Donc on a déjà beaucoup de Français sans domicile fixe à loger. Peut-être que ce n'est pas souhaitable d'accueillir en plus des migrants quand on n'a pas les moyens visiblement de les accueillir.
Sabrina Medjeber.
Un tout petit chiffre. On est passé de 1,7 million de ménages à 2,4 millions en un an de Français en demande de logements sociaux. Je parle de ça puisqu'il s'agit là en réalité de ce déplacement vers des logements. Alors, logements d'hébergement, de toute façon, ils sont prioritaires, les migrants. Et si jamais c'était dans le cas ou dans le cadre des logements sociaux, il faut savoir que ça n'est plus une prérogative départementale, mais bien nationale. Et tout cela résulte en réalité de quoi ? Effectivement, il y a la décision de Mme Hidalgo de faire fuir les craqueurs, des migrants pour la plupart. Ils sont indiqués comme étant de l'ethnie Moudou du Sénégal, dans l'essai de Michel Gandillon, que certainement vous pourrez me confirmer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la ramification du pacte asile-immigration qui souhaite évidemment répartir les migrants selon certaines et dans certaines provinces. Pourquoi ? Parce que les grandes conurbations aujourd'hui sont saturées déjà en termes de logements sociaux. Il n'y a plus d'employabilité possible parce que le monde ouvrier s'est effondré, mais il y a aussi l'obsidianité, c'est-à-dire la territorialisation de certaines familles, de certains gangs qui n'en veulent pas parce que l'arrivée de nouveaux migrants amènerait de la concurrence, amènerait davantage de guerres ou de guérillas ethnico-territoriales sur leur territoire, ce qui est inacceptable. Et je pense que les bailleurs sociaux en ont parfaitement conscience. C'est pour ça qu'ils tentent de les répartir un peu partout.
Il y a cette politique-là.
Absolument.
Rodimana, là-dessus,
Rachel. C'est surtout des secteurs gendarmerie qui sont touchés là. Et je peux vous dire qu'effectivement, nos amis gendarmes nous disent que... ils sont touchés par des vagues de délinquance, parfois sur des groupes qui arrivent parce qu'ils ont été écartés de Paris ou des grandes villes. Ça, effectivement, nos amis gendarmes sont davantage touchés par l'immigration qu'on connaît habituellement et par la délinquance qu'on connaît habituellement en centre-ville, dans les grandes villes.
Hier, Rachel, le maire d'Orléans, donc Serge Grouard, a interpellé Gérald Darmanin sur l'arrivée régulière de migrants dans sa ville. En catimini, dit-il, depuis le mois de mai 2023, une quarantaine de personnes par mois, ce qui fait, selon le maire d'Orléans, 500 migrants SDF en tout.
Oui, puis ce qui est étonnant, c'est effectivement la ville Orléans, région centre, avec une population presque à la périphérie de Paris, avec le TGV, donc pas du tout habitué. Après, je trouve qu'il faut faire attention sur quand on emploie le mot migrant et pas mettre tout dans le même panier. Il y a les immigrés, il y a les demandeurs d'asile et il y a les migrants. Vous avez rappelé, et moi c'est sur ce terrain-là de la violence qui arrive dans ces villes comme Orléans, des profiteurs de misère sociale.
Ah oui, bien sûr.
Et ça, moi, c'est-à-dire que c'est inadmissible et c'est dommage que le ministre n'ait pas répondu là-dessus au lieu de nous parler des Jeux Olympiques.
Rachel a raison avec le terme migrant, mais en réalité, c'est une victoire sémantique justement de tous les milieux associatifs qui sont en fait pour l'abolition de toute forme de frontières. Effectivement, avant, on faisait la différence entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Aujourd'hui, le terme de migrant permet de tout mélanger. En réalité, il y a beaucoup de gens qui sont illégaux et il fut un temps où c'était un délit d'être sur le territoire de manière illégale. Donc il y a aussi peut-être un combat sémantique à mener pour se réapproprier les bons mots. Dans cette affaire, parce qu'effectivement, on ne peut pas accueillir tous les migrants du monde, tous ceux qui décideraient de venir en France, dire bah, ce sont des migrants, ils peuvent venir, on va adapter notre politique à cela. Non, c'est pas possible.
C'est le Conseil constitutionnel qui l'a agréé, ça, en censurant l'article 3 de la censure du délit de séjour irrégulier. Donc,
qui l'a agréé, et c'est un dispositif européen à la base. Donc oui, c'est une victoire sémantique du monde associatif qui ensuite a été politiquement, finalement, voilà, les hommes politiques ont beaucoup lâché, notamment ceux de la Commission européenne, dont une partie sont en réalité immigrationnistes.
Un dernier mot pour vous signaler, alors pour reparler de sécurité, la campagne du ministère de la Justice qui a lancé hier un appel aux Français qui voudraient se porter volontaires comme famille d'accueil provisoire pour des adolescents suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'agit de mineurs qui ont commis plusieurs infractions. Le but est, selon le ministère, de leur offrir un cadre de vie sécurisant pour des mineurs en conflit avec la loi. Rodi Mana, on sait que les centres d'éducation renforcés sont complètement saturés. Il y en a tellement peu, de toute façon, il y en a même pas un par département. Oui. Donc là, on en appelle à des familles d'accueil qui seront rémunérées, évidemment. Il y en a, il faut recruter comme ça des gens pour les accueillir.
Il faut croire que oui. Oui, effectivement, les centres éducatifs fermés, c'est très compliqué. Ils sont saturés. Il y en a beaucoup. Il y en a un à Marseille que je connais bien. Il y a beaucoup de jeunes qui s'évadent, qui partent.
Ils s'en vont tout de suite.
C'est super compliqué. Effectivement, s'ils en arrivent à ça, c'est qu'ils en ont besoin. Et puis, s'il y a des familles qui sont en capacité de le faire, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, avec un cadre peut-être familial, ça peut les remettre dans le droit chemin. Moi, je suis plutôt optimiste parfois là-dessus, comme parfois ça ne marche pas. Mais au moins, on peut tenter de le faire et c'est pas franchement ça peut être.
C'est un acte de générosité, rémunérée hein, pour le coup, Rachel. Mais néanmoins, essayer de les réinsérer par le biais de familles françaises.
Oui, alors c'est vrai que j'aurais tendance à être positive et vouloir y croire. Après, tout dépend de l'âge de ces jeunes. C'est pas du tout la même chose si on a un jeune
11 ans ou 17 ans.
Exactement.
11 ans ou 17 ans.
Après, c'est vrai que ça fait appel à la fraternité, mais c'est les familles d'accueil, on peut pas s'improviser.
Non, c'est un vrai métier.
Exactement.
Il faut être formé psychologiquement
Il y a eu tellement
rapidement.
De dérives dans les familles d'accueil.
C'est une manière aussi de reconnaître implicitement que c'est aussi une question familiale, en fait. La délinquance, c'est que la famille a une responsabilité là-dedans, mais l'État va pas pouvoir éternellement se substituer à tous les problèmes du monde. Donc ça peut marcher effectivement pour des très jeunes délinquants qui auront été condamnés pour la première fois, mais je pense que pour les multirécidivistes, c'est trop tard et c'est à la justice de faire son travail. Il faut aussi des peines d'enfermement.
Allez, on fait une petite pause. Je vous remercie, Rodi Mana, d'être venu dans la première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la dette et on va parler aussi de ce qui se passe en Russie après l'attentat de Moscou. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Vous vous souvenez peut-être du feuilleton américain L'homme qui valait 3 milliards avec son héros bio-ionique Steve Austin. Eh bien nous avons mieux. Nous avons l'homme qui valait 1000 milliards. Il se nomme Emmanuel Macron. Les comptes de la France sont dans le rouge avec un déficit qui a littéralement explosé entre 2017 et 2024 en augmentant donc de 1000 milliards. 1000 milliards d'euros de dette en plus dont seulement 260 seraient imputables à la crise du Covid, le plan de relance ou la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, selon le député Charles de Courson. 1000 milliards de dépenses publiques, de chèques en tout genre, de rallonges, de ristournes, 1000 milliards engloutis dans la dépense sociale ou les collectivités locales qui vont connaître un sérieux coup de rabot pour trouver quelques économies à faire. Tout cela, mesdames et messieurs, sans vous augmentez les impôts. C'est la promesse du Premier ministre Gabriel Attal. Or, comme chacun le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Panique au ministère et dans la majorité présidentielle qui nous parle maintenant du tournant de la rigueur, refrain bien connu des Français, tandis que de leur côté, les oppositions voient rouge et gesticulent à l'Assemblée nationale alors qu'elles se mettent à hurler à la mort dès que l'on parle de baisser la dépense publique. La France, ce merveilleux pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies et qui se permet de donner des leçons de morale et de rigueur à la terre entière, sacré Français. On en débat ce soir dans Punchline. Et il est 18h, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Avant nos débats, d'abord le rappel des titres de l'actualité. Plus de 6 mois après la disparition de la jeune Lina dans le Bas-Rhin, 3 personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui. Un couple a été convoqué par les gendarmes, en plus d'un homme qui a lui été interpellé en début de matinée. Plusieurs incohérences ont été repérées dans leurs déclarations et leurs emplois du temps par les enquêteurs. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions. Le rectorat évoque des raisons de sécurité. Il avait été menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève à qui il avait demandé d'enlever son voile il y a tout juste un mois. Les obsèques de Frédéric Mitterrand ont eu lieu cet après-midi à Paris, en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Le neveu de François Mitterrand est décédé jeudi dernier des suites d'une longue maladie à l'âge de 76 ans. Plusieurs personnalités publiques étaient présentes, dont Rachida Dati, la ministre de la Culture, une fonction que Frédéric Mitterrand lui-même avait occupée au cours de sa carrière politique. Enfin, 172e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 3 de ces otages sont français, ils se prénomment Ofer, Orion, Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà pour les rappels des titres de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Louis de Ragnel, journaliste politique à Europe 1. Bonsoir Louis,
bonsoir,
chef
Laurence.
Du service politique. Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir,
bonsoir Laurence. Rachel.
On a le plaisir d'accueillir Nicolas Bavrez, bonsoir.
Bonsoir.
Historien et essayiste. Sabrina Medjeber, essayiste également sociologue. Bonsoir, et Laurence. Alexandre Devecchio, qui est journaliste.
Bonsoir,
voilà.
Laurence.
Joli plateau pour évoquer ces sujets brûlants de l'actualité. Et d'abord la dette, ça vous paraît peut-être pas très sexy, mais c'est important. Parce qu'évidemment, nous sommes en train de prendre le mur de pleine face, Nicolas Bavrez, avec nos déficits qui explosent. Et je le disais, voilà, l'homme qui valait 1000 milliards en la personne d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2024. C'est le montant de la dette qui a augmenté. J'aimerais juste qu'on écoute pour commencer un échange musclé qui a eu lieu cette après-midi à l'Assemblée nationale entre Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis 2017, et le Rassemblement national, qui l'accusait, encore une fois, de ne pas savoir tenir les comptes publics. Écoutez cet échange entre le Rassemblement national et Bruno Le Maire.
Ce n'est plus une dérive, c'est une sortie de route. Nos comptes publics ne sont plus tenus, ce sont des faits.
Le Rassemblement national serait plus crédible s'il arrêtait d'expliquer que pour rétablir les finances publiques françaises, il faut sans cesse matraquer les immigrés. Ce n'est pas comme ça que nous rattraperons nos déficits et que nous rétablirons les finances publiques françaises. Vous n'avez proposé, monsieur le député, depuis quelques mois, que des dépenses publiques supplémentaires. Et je vous confirme que nos perspectives de croissance, nos perspectives économiques pour 2024, pour 2025, pour 2026, elles sont positives. Parce que contrairement à vous, nous croyons dans les Français, nous croyons dans nos entreprises françaises, nous croyons notre capacité à nous redresser économiquement dans les années qui viennent.
D'habitude, nous sommes dans les erreurs, les approximations et l'autosatisfaction, tout simplement pour une bonne et seule raison. Vous n'avez pas de stratégie pour les finances publiques. Votre stratégie pour les finances publiques, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche.
Voilà pour ce député Rassemblement National. On parlera du programme du Rassemblement National en matière de dépenses publiques dans un instant. Mais Nicolas Bavrez, est-ce que c'est comme ça qu'on va régler le problème de la dette en s'envoyant des noms d'oiseaux à la figure à l'Assemblée ?
Non, voyez-vous, il y a 50 ans, le 2 avril 1974, mourait le Georges Pompidou. Et c'est important parce que le dernier budget en excédent, c'est celui de l'année 1973. C'était 0,2%, qui a été le dernier budget à avoir été réalisé en excédent. Et donc, d'abord, ça montre l'ampleur du problème. La France est le seul grand pays développé qui vient d'accumuler, dans une période quand même qui a connu beaucoup de chocs, mais aussi de périodes de croissance, 50 années de déficit à la suite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effet de perte de contrôle, parce que, comme vous l'avez rappelé, la dette française, c'est à peu près 3 100 milliards, et depuis 2017, c'est 1000 milliards. Donc, il y a un effet d'accélération qui est stupéfiant. Alors, ensuite, au-delà des montants, La vraie question, c'est est-ce que cette dette est soutenable? Et le moment où une dette devient insoutenable, c'est le moment où, en fait, les taux d'intérêt deviennent supérieurs à la, ce qu'on appelle la croissance nominale, c'est-à-dire la croissance en volume plus l'inflation. Et il se trouve qu'en 2024, on y est. On a des taux qui sont à 4%, on a une croissance qui va être à 0,7% et à peu près 2%, un peu plus d'inflation. Donc, on a maintenant cette mécanique infernale qui se met en
place,
qui se met en œuvre. Et c'est vrai qu'en face de cette dette gigantesque, il n'y a plus de croissance, il y a des gains de productivité qui baissent, il y a un chômage qui monte. Et donc, on a maintenant une situation qui est une situation critique. Et là où je crois qu'au-delà des échanges qu'on a vus, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que finalement, bon, on est un certain nombre à avoir prêché dans le désert depuis des décennies, mais ça, c'est pas grave. Mais surtout, il n'y a pas de prise de conscience. Aujourd'hui, il y a des mots, mais il n'y a aucune action. On a un président de la République qui a organisé un dîner, mais visiblement, ce n'est pas quelque chose dont il considère que ça fait partie des priorités.
Il y aura un débat parlementaire.
S'il n'y a pas de prise de conscience, c'est quand même déjà la base pour pouvoir discuter des solutions.
Il y a la question du gouvernement, mais il y a aussi Alexandre Vecchio, la question des oppositions qui est là, hurle dans l'hémicycle. Mais à chaque fois qu'on dit on va couper la dépense publique, on va faire des... qui se mettent à hurler aussi, parce qu'évidemment, il n'est pas question pour aucun parti présent dans l'hémicycle de faire des économies et de dire aux Français ça va faire mal, ça va être du sang et des larmes.
Moi je pense que c'est un choix politique la question de la dette et ça relève d'une stratégie. Et tout le monde je pense est d'accord, à part LFI, est d'accord pour faire des économies. Maintenant la question c'est où est-ce qu'on va on va les faire. Ce que je note tout de même c'est que...
Tout le monde est d'accord pour faire des économies ?
Je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que la dette est importante. Maintenant, oui, c'est alors... où va l'argent des impôts des Français? Manifestement, il va pas dans l'hôpital, il va pas dans l'armée, il va pas dans la justice. Même dans l'école, en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui est mis, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt ça la question. Et je comprends ce que vous voulez dire, mais je trouve que moi la réponse de Bruno Le Maire, comme souvent, est assez suffisante. On a fait confiance à des énarques depuis des années et ils ont une présomption de compétence. Mais c'est quand même eux qui étaient au pouvoir.
Mais c'est pas l'ENA, le sujet.
Non, c'est pas l'ENA, mais
la réponse, c'est qu'il y a des... On peut être honnête ou malhonnête dans la vie, on peut dire la vérité ou
pas la vérité. Le sujet, c'est que les gens qui sont au pouvoir, qui sont succédés, sont plutôt des énarques reconnus pour être soi-disant des bons gestionnaires. Le fait est qu'ils ont fait, c'est eux qui ont creusé la dette, c'est pas le Rassemblement national. Je pense encore une fois que pour réduire la dette, c'est une stratégie politique. Et on ne peut pas, à mon avis, continuer de la réduire en paupérisant les services publics. Ce qui a été la stratégie politique de la droite et de la gauche, de saper dans les services publics. On a vu le résultat à l'hôpital, dans la police, la justice. Donc ce n'est pas là qu'il faut aller. C'est sur les dépenses sociales. Et là, on n'entend pas beaucoup le gouvernement. Le gouvernement dit qu'il ne faut pas s'attaquer à l'immigration. Mais l'immigration fait partie. Ce n'est pas que ça. Ce serait démagogique de dire qu'il n'y a que de l'immigration. L'immigration fait partie des dépenses sociales et il faut peut-être aller là. Et ensuite, en parallèle, il faut mettre en place un choc de production, arrêter la désindustrialisation, parce que le meilleur moyen de réduire la dette, c'est quand même de faire de la croissance. Donc voilà, il y a une erreur stratégique de pas aller là-dessus depuis des années. Maintenant, est-ce que le Rassemblement National est capable d'aller là-dessus? C'est plutôt sa ligne.
Du Front National, du Rassemblement National, pardon, Nicolas Bavrez, vous l'avez détaillé, c'est plutôt des dépenses, parce que évidemment, il y a beaucoup de choses.
Pour l'instant, il n'est pas très
clair.
Il n'est pas très clair, mais c'est vrai qu'en tout cas, sauf à ce qui change beaucoup, c'était un programme qui, pour le coup, avait pas mal de points communs avec LFI. Puisque c'est un programme qui est étatiste, qui est dépensier.
Baisse de la TVA, fixation de l'âge de la retraite.
Et donc, a priori, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour essayer de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est. Et comme on l'a dit, le paradoxe, c'est comment est-ce qu'on peut dépenser 58% du PIB d'un pays qui est quand même qui est la 7e puissance mondiale, et avec ça, avoir un effondrement de l'éducation, de la santé, des transports, de la justice et de la police. Là, il y a quand même un problème. Et donc, c'est ce problème que, de manière constante, on a refusé de traiter. Et vous voyez que Le débat est paradoxal parce que la classe politique française ne cesse d'avoir beaucoup de leçons et de conseils à donner au secteur privé et d'inventer. Alors aujourd'hui, on retrouve la recette miracle, c'est qu'on va augmenter les impôts. On est à 52% du PIB sur les recettes publiques. Hein, les recettes, ça veut dire que c'est 10% de plus que tous les autres pays européens. Et donc, plus on augmente les impôts, plus évidemment on va diminuer la croissance. Si vous voulez.
Mais ils nous ont juré qu'ils n'augmenteraient pas les impôts, Nicolas.
Les impôts commencent à en parler. Ils ont déjà augmenté.
Attendez, Nicolas,
cette course folle des dépenses et des impôts, c'est ce qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, il faut accepter d'arrêter de vouloir sans cesse surimposer et se mettre à traiter les problèmes du secteur public. Et donc, il y a un problème de niveau et, comme on le dit, il y a un problème de contenu de la dette. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans les fameux 10 milliards de rabots qui ont été proposés. C'est spectaculaire. Vous en avez plus de la moitié du fameux économie ou rabot qui porte sur l'investissement. Et on manque d'investissement public, c'est pas faux.
C'est pas là qu'il faut aller taper, évidemment.
Et donc, on a deux problèmes, le niveau et un vrai problème sur l'orientation désastreuse, la mauvaise utilisation de ces dépenses. Donc, on fait ce que ça s'appelle la décroissance par la dette, c'est-à-dire que nous investissons pour détruire des activités, des emplois et de l'innovation.
On va continuer à en parler. Les Français vont en entendre parler encore de cette affaire de dette pendant plusieurs semaines parce que c'est un sujet qui sera au cœur de l'actualité. C'est important de commencer par ça. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On verra ce qui se passe en Russie avec Vladimir Poutine qui menace alors non seulement maintenant les Ukrainiens mais aussi les services secrets occidentaux. Il dit que c'est eux qui sont directement impliqués dans l'attentat de Moscou. A tout de suite dans Punchline. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce qui se passe évidemment en Russie à la lumière sombre de cet attentat qui a été commis ce week-end. Parce que Vladimir Poutine estime désormais que ce sont les services secrets occidentaux et ukrainiens qui sont directement impliqués dans cet attentat. En tout cas, en France, notre niveau de vigilance a été rehaussé d'un cran. Nous sommes au niveau maximum du plan Vigipirate. Il y a de nombreux lycées qui sont encore en région PACA notamment menacés par des emails malveillants avec des menaces d'attentat. Et tout à l'heure, Gabriel Attal, le Premier ministre, a invoqué devant les députés une menace islamiste qui ne s'est jamais éteinte dans notre pays. Écoutez-le.
La menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Face à une menace qui ne faiblit pas, notre détermination est totale et notre mobilisation est intégrale. Nous ne faiblirons pas, nous ne baisserons jamais la garde face à un ennemi qui prendrait chaque centimètre de terrain que nous pourrions lui laisser.
Voilà pour le Premier ministre qui nomme les choses. Il parle du terrorisme islamiste qui frappe partout dans le monde. On va juste écouter, après je vous passe la parole pour entamer le débat, Jean-François Ricard, qui est le procureur national antiterroriste de notre pays, qui lui est extrêmement inquiet. Il signale une explosion du nombre de dossiers pour terrorisme djihadiste depuis 4 ans. Il dit on a changé d'échelle. Écoutez-le.
Entre le 1er septembre 2019 et aujourd'hui, nous avons jugé 81 dossiers de terrorisme djihadiste devant la cour d'assises spécialement composée. 8 fois plus en un peu plus de 4 ans que pendant les 25 années qui ont précédé. Le chiffre est tout à fait éloquent. Ce n'est pas une augmentation, c'est un changement complet d'échelle.
Une échelle différente, Sabrina Medjeber. C'est-à-dire que là, on est sur de nombre de terroristes jugés et qui vont sortir de prison aussi. C'était une autre inquiétude de Jean-François Ricard,
oui,
qui est effrayante.
Absolument. Et malheureusement, ce chiffre va grandir d'année en année puisque, encore une fois, le terrorisme n'est pas simplement l'affaire d'adultes, hein, c'est également l'affaire de mineurs. Céline Berton, la nouvelle directrice de la Direction générale de la sécurité intérieure, le signalait récemment dans son communiqué de presse que la radicalisation des mineurs était une réelle inquiétude. Nous en avons eu la preuve à Nice récemment avec ce jeune étudiant, enfin ce jeune élève, pardon, de CM1 qui avait dans son esprit fomenté un attentat. Il faut savoir que cette jeunesse, elle est dotée d'outils, hein, elle peut se radicaliser en quelques heures via des réseaux sociaux et également des relais, enfin des réseaux sociaux qui relaient des propagandes de groupes type Hamas ou État islamique, mais pas seulement, hein, vous savez, c'est aussi une question d'allégeance. Vous avez l'ouvrage de Abou Bakar Najjar qui s'appelle Le management de la sauvagerie, qui est un des piliers de référence quant à la pensée et au passage à l'acte. Vous avez celui d'Al-Souri aussi, écrit en 2005, qui s'appelle « Appel à la résistance islamique ». C'est
donc il y a de la littérature, voilà.
Absolument, il y a toute une histoire de base et une littérature à laquelle, sur laquelle, pardon, se basent ces jeunes ou adultes, hein, d'ailleurs, pour faire allégeance et ensuite s'en servir comme étant le justificatif du passage à l'acte terroriste, bien sûr.
Rachel Kahn, on voit cette montée de l'inquiétude. On entend le procureur national antiterroriste dire qu'il est extrêmement inquiet.
Oui.
On entend le Premier ministre et on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde.
Partout dans le monde et sur notre territoire, on voit cette hybridation entre le terrorisme dur, celui qui est passé à l'acte, donc qui est en détention, et ceux qui ont été radicalisés et qui vont sortir. Mais effectivement, tous ces jeunes, et on parlait de la dette tout à l'heure, je pense que la problématique de la dette est aussi liée à notre contexte, celui qu'on est en train de vivre, et notamment de devoir faire des choix. Lorsqu'on finance des associations un espèce de saupoudrage sur des associations qui sont dans un entre-deux, qui sont totalement compatibles avec ces idéologies-là, qui ouvrent la porte pour harceler la République, il faut faire un choix de cesser
cette... Il faut faire le ménage.
Exactement. Bah, c'est place nette aussi, c'est pareil.
Nicolas Bavrez.
Je crois évidemment tout ce qui vient d'être dit est exact, c'est-à-dire que on a un terrorisme d'origine interne, ce que vous avez rappelé, et qui touche maintenant de plus en plus les mineurs. Ce qui est, mais l'autre tournant, ce qu'on vient de voir avec en Russie, c'est que ce qui avait disparu, c'était la capacité à projeter des commandos, ce qui avait eu lieu auprès du Bataclan, et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, cette capacité est de nouveau là. Elle est là. On l'a vu à partir du Caucase, mais elle va aussi exister à partir de l'Afrique, puisque avec la sortie et l'expulsion de la France d'Afrique, le fait que le Sénégal est en train de tomber entre les mains des salafistes, il va y avoir quand même, on a déjà une espèce d'énorme sahélistan qui s'est créé. Et donc, on a bien ces deux menaces qui, aujourd'hui, vont de nouveau exister. La menace intérieure qui croît, et la menace de commando extérieur. Et là où il y a quand même une difficulté dans la position du gouvernement, c'est qu'on a raison de dire, de prendre conscience, mais là aussi, il faut quand même en tirer des conséquences. Je ne vois pas comment on peut continuer à prétendre organiser la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques telle qu'elle a été prévue, dans des conditions où la sécurité est impossible à garder, ni pour les spectateurs, ni pour les athlètes.
Les athlètes aussi.
Et donc, ça fait des mois qu'on voit monter ce problème avec déjà ce qui se passait à l'est du continent. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'on ne tire pas de conséquences de cette dégradation spectaculaire
du climat,
de la situation sécuritaire.
Alexandre Devecchio, vous faites partie de ceux qui, comme Olivier Marleix, des Républicains, disent « Le gouvernement entretient un climat anxiogène pour les Français brandissant la menace terroriste. »
Je ne fais pas partie de cela. Je pense que les propos d'Olivier Marleix étaient maladroits. Parce qu'en fait, il disait après qu'il faut être cohérent. Et justement, il amenait cette question des Jeux Olympiques. Mais nous, là, pour une fois, Gabriel Attal... Mais effectivement, les bons mots, d'ailleurs, ils parlent d'islamisme. L'islamisme est un phénomène beaucoup plus large que le terrorisme est peut-être beaucoup plus inquiétant parce que le terrorisme est un problème sécuritaire qui fait des morts. Mais l'islamisme, à long terme, c'est un basculement démographique, c'est un changement de civilisation et on voit qu'il s'opère déjà dans certaines parties du territoire. Donc de ce point de vue-là, Gabriel Attal a raison de parler d'islamisme. Maintenant, effectivement, il faut qu'il soit cohérent. Donc à la fois, il faut sans doute... Il y a les Jeux Olympiques, mais enfin...
à très long terme, le problème ne s'arrête pas aux Jeux Olympiques. Et donc, il faudra poser la question des frontières, parce que ce soit les commandos projetés ou le problème interne, il vient d'une immigration qui a été mal gérée depuis des années, un échec de l'intégration. Donc toutes ces questions-là, il faut les mettre sur la table. Et enfin, troisième chose, il va falloir mettre sur la table la question de l'état de droit.
C'est-à-dire le remettre en cause,
Nicolas, Alexandre ? Non, Nicolas Bavrez fait partie de ceux qui a condamné ce qu'il a appelé les démocratures ou les démocraties autoritaires, c'est-à-dire les régimes type Vladimir Poutine. Et il a raison, mais entre une démocratie autoritaire et une démocratie sans autorité, il y a une marge. Et aujourd'hui, nous avons une démocratie sans autorité. Donc, il est temps d'adapter l'état de droit à notre réalité et aussi d'en finir avec une forme de démocratie des juges, puisqu'aujourd'hui, on a des juges européens qui viennent piétiner finalement le travail du législateur français. L'état de droit, c'est aussi la souveraineté populaire et les lois qu'ont votées les législateurs français. Et donc, il va falloir donner une primauté finalement au droit national par rapport au droit supranational et aux jurisprudences des juges.
Rachel, un mot.
C'était juste un tout petit point sur la question des frontières. Il y a les frontières physiques, celles que l'on connaît, mais il y a aussi les frontières mentales. Là, l'idéologie, notamment islamiste, c'est une question de frontières mentales. Et justement, de rappeler à ces jeunes que ce qu'ils peuvent voir ou entendre dans les associations culturelles ou sportives, où on leur parle avec un langage séparatiste, au fond, racialiste, etc., ça ne fait pas partie de notre socle républicain.
Y compris même dans l'école.
Très bon,
bien sûr, évidemment.
Et à l'école aussi, Sabrina.
Récemment, un jeune professeur de 24 ans a été placé en garde à vue parce qu'il envoyait des messages à l'État islamique. Hein.
Bon. C'est Louis Dragnel, la menace terroriste, elle est bien réelle, elle est sur notre sol, avec des risques d'attentats projetés.
Oui, je rejoins ce que disait Nicolas Bavrez, c'est-à-dire que l'enseignement majeur de ce qui s'est passé à Moscou, c'est qu'en fait c'est l'Occident chrétien, pour schématiser, qui a été frappé depuis des gens qui venaient de l'extérieur du territoire qui a été frappé. Et donc pour nous, effectivement, et je crois qu'Emmanuel Macron l'a compris immédiatement, en proposant d'ailleurs la coopération des services de renseignement français au profit de l'appareil russe, précisément sur la question de la lutte contre l'islam radical, c'est l'illustration du fait que nous sommes à nouveau, et c'est la prise de conscience, l'acceptation du fait qu'on est à nouveau aussi désigné comme une cible par l'État islamique.
On a toujours été en réalité.
Oui, mais on pensait depuis quelques années, on en parlait quand même un peu moins, on voyait qu'il y avait l'émergence de ce qu'on appelait le terrorisme low cost, avec des gens qui pouvaient acheter un couteau de cuisine ou qui commettaient du terrorisme qu'on appelle de basse intensité. Là, c'est le retour quand même à cette possibilité, cette vulnérabilité. Et puis on voit que les gens, en tout cas, qui ont été interpellés en Russie sont des gens qui étaient très bien formés, préparés. Et puis je rappelle ce qu'on dit régulièrement, mais pour être capable de faire une telle tuerie de tout en allumant des
139
feux,
personnes.
N'importe qui peut pas faire ça. Donc ça suppose d'avoir été suffisamment endoctriné, entraîné.
Et préparé.
Voilà, on ne fait pas ça comme ça.
Et financé.
Parce qu'ils ont beaucoup d'argent.
Nicolas Bavrez, après on peut vraiment repartir à Moscou.
Un mot rapide pour répondre à Alexandre Devecchio. Je crois que, y compris en Europe, c'est là où on voit que ça n'est pas l'Europe l'origine du problème, mais qu'il y a vraiment un problème français, c'est qu'en Europe, on a des États qui ont été effectivement laxistes, mais qui ont repris le contrôle. Donc il est bien vrai qu'il n'y a pas de démocratie qui fonctionne sans paix civile. Et pour la paix civile, il faut une autorité publique forte. Quand on prend aujourd'hui des pays comme la Suède, comme le Danemark, ce sont des pays où l'État de droit fonctionne et fonctionne de manière rigoureuse et où on a bel et bien une vraie reprise en main de l'autorité publique. Je rappelle aussi que, par exemple, sur la Suède, ce qui est intéressant, c'est un pays donc qui a été très longtemps un pays neutre, qui vient donc de décider de rejoindre l'OTAN. C'est un pays qui a rétabli le service militaire. Et je pense que, vous voyez, vous parlez de sentinelles, mais on voit bien qu'on est aujourd'hui sur deux fronts, avec ce front intérieur et puis la Russie et le retour de la guerre de haute intensité en Europe. Ce n'est pas avec 77 000 soldats de l'armée de terre qu'on peut faire les deux. Donc là, on va ramener des milliers de soldats pour faire du sentinelle, alors qu'en réalité, ce n'est pas leur métier. Donc je pense que nous devrions réfléchir au rétablissement du service militaire avec une force de 50 000 hommes qui serait chargée d'abord de faire la fin des déserts militaires dans notre pays et d'être mise au service, de faire grosso modo ce que fait Sentinelle, ce qui permettrait au reste des forces de se spécialiser dans le combat de haute intensité.
Sur la base du volontariat, ce service militaire.
Exactement. Enfin, on peut pas, de toute manière, ça n'a pas de sens de prendre toute une classe d'âge, etc. C'est pour ça qu'en Suède, en Suède, c'est 40 000 personnes. Nous, on peut faire un peu plus.
Avec 50 000.
Voilà, mais avec l'idée de remettre en route, et ça correspondrait, à mon avis, à un vrai besoin. Ça permettrait de rétablir un lien entre l'armée et la nation. Mmh. Et je pense que c'est une des manières de rétablir de l'autorité publique aussi dans notre pays.
Allez, on va continuer à parler de ces questions de sécurité nationale dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h30 avec Adrien Spiteri. Adrien.
Une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza est-elle possible? Le Qatar assure que des négociations sont en cours alors que les combats se poursuivent. Dans le même temps, le Hamas appelle à cesser les largages humanitaires. Ces derniers jours, 18 Palestiniens ont perdu la vie en tentant de récupérer de la nourriture parachutée dans la bande de Gaza. Les services secrets occidentaux et ukrainiens sont directement impliqués dans l'attentat près de Moscou, c'est ce qu'affirme le patron des services de sécurité russes. L'attaque de vendredi a pourtant été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Hier, Vladimir Poutine a admis pour la première fois que les assaillants présumés étaient des islamistes radicaux. Et puis Sébastien Lecornu prévient l'industrie de défense française. Le ministre des Armées appelle à produire plus d'armements et plus vite en raison de la guerre en Ukraine. Il n'exclut pas de faire des réquisitions ou de faire jouer le droit de priorisation. Des mots prononcés lors d'une conférence de presse aujourd'hui en présence de tous les chefs d'état-major.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. On va écouter Sébastien Lecornu dans un instant. Il a été très clair aujourd'hui. La Russie représente une menace pour la France. On met ça en miroir avec ce qu'a dit aussi le service secret, les services de sécurité russes qui nous accusent, les services secrets occidentaux et ukrainiens, d'avoir été impliqués directement dans l'attentat de Moscou. Petite pause, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. – 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, notamment avec Nicolas Bavrez, historien essayiste et auteur de ce livre « Démocratie contre empire autoritaire » aux éditions de l'Observatoire « La liberté est un combat », ô combien d'actualité avec ce qui se passe évidemment dans le monde. On va se diriger vers la Russie pour savoir ce qui s'y passe, alors qu'un huitième suspect de l'attaque terroriste a été arrêté ce matin. La Russie semble toujours chercher un coupable. Elle se tourne désormais évidemment vers l'Ukraine, mais aussi vers les services secrets occidentaux. Les explications de Clotilde Payet.
Après l'Ukraine, la Russie cible les Occidentaux dans leurs accusations. Le chef des services secrets pointe en effet leur implication dans l'attaque meurtrière de Moscou.
Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par les services islamistes radicaux eux-mêmes et facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils y sont directement impliqués. Je pense que c'est la vérité.
Après avoir longtemps ignoré les revendications de l'État islamique, Vladimir Poutine avait finalement admis hier reconnaître l'implication d'islamistes radicaux, tout en sous-entendant des liens avec l'Ukraine.
C'est une tactique de peur, comme je l'ai déjà dit. Et la question se pose immédiatement de savoir à qui cela profite. Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives de la part de ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays, par l'intermédiaire du régime néo-nazi de Kiev.
Un balai d'accusations qui, selon les autorités ukrainiennes, permettent à la Russie de poursuivre leurs actions de guerre en Ukraine.
Ce qui est terrible, c'est que l'État islamique a revendiqué deux fois l'attaque de Moscou et Poutine. Peut-être une troisième fois. Et Poutine continue à dire non, il faut regarder du côté des Ukrainiens et maintenant des services secrets occidentaux, Louis de Ragnel. Comment vous expliquez ça? C'est une cécité complète
du pouvoir russe. C'est pas une question de gouvernement, de pour ou contre Emmanuel Macron. Mais c'est du grand n'importe quoi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on on peut reprocher ce qu'on veut, si vous voulez, au chef de l'État, mais absolument pas de mettre en place un système avec les services de renseignement pour soutenir Daesh, l'État islamique, pour commettre un attentat. L'État islamique nous a suffisamment frappé sur notre sol. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est même insupportable et très insultant, à la fois pour le renseignement extérieur, le renseignement intérieur en France. Le deuxième élément, c'est que si réellement c'était le cas, dans la mesure où d'ailleurs la DGSI travaille avec les services de renseignement russes sur la lutte contre le terrorisme, ça, je pense que Vladimir Poutine
omet de le dire, bien évidemment. Attention de ne pas le dire.
Crois que ça illustre la vraie nature du régime de Vladimir Poutine. Avec l'assassinat de Navalny, on a eu la face violence, la terreur. Et là, vous savez, c'est Solzhenitsyn face à l'Union soviétique qui avait une phrase géniale. Il disait « Crois tes yeux, pas tes oreilles ». Et c'est vrai que face à Poutine, on est vraiment maintenant dans une structure de type totalitaire parce que c'est un régime qui vit sur le mensonge. Donc, quand il parle de paix, il faut comprendre que c'est la guerre. Quand il parle de nazis à Kiev, il faut comprendre qu'ils sont à Moscou. Et tout est à l'avenant. Donc, on a un système et qui a perdu, et c'est là où on peut se demander combien de temps ça va tenir, c'est qu'à ce point, il n'y a plus aucun lien avec le réel.
C'est ça.
Donc, il y a une espèce de novlangue qui est complètement déconnectée de la réalité, et puis des choses qui, tout simplement, ne sont même pas crédibles, j'allais dire, sans parler de problèmes de stratégie ou de renseignement, mais sur le plus élémentaire bon sens. S'il y a une chose que les services de renseignement occidentaux ne feront jamais, non seulement ils n'ont pas aidé, mais je rappelle que les Américains ont prévenu et alerté en temps et en heure et qu'à ce moment-là, la réaction de Poutine, ça a été de dire on cherche à désorganiser la Russie. Tout ceci est effectivement très inquiétant. En tout cas, ça veut dire une chose à court terme, c'est que ce régime est fondé sur le mensonge, mais aussi sur la violence, et que la violence intérieure et la violence extérieure vont se durcir encore, et que nous sommes dans les cibles désignées de la violence extérieure.
Nous sommes en première ligne, pratiquement, nous, Européens, et nous, Français en particulier.
Les Ukrainiens sont en première ligne, mais nous avons la guerre hybride. Et là encore, très clairement, avec les problèmes avec le CIO, etc., la France va être une cible particulièrement désignée pendant les Jeux Olympiques et nous devons en tenir compte.
Parce que je rappelle que les athlètes russes pourront participer aux épreuves, mais sans bannière et sans hymne national en cas de victoire. Rachel Kahn et Alexandre Devecchio.
Il ne faut jamais oublier que Vladimir Poutine a un mandat d'arrêt international sur la tête. Il a réussi justement, puisqu'il estime que le réel est une insolence. Et donc, il mène une guerre contre l'histoire, il mène une guerre contre le droit. Et souvent, on dit qu'il y a une concurrence des victimes. Et là, on a la sensation qu'il mène une concurrence des bourreaux, c'est-à-dire entre sa manière, cette autocratie absolument délétère et complètement en violation du droit international et des droits fondamentaux. Il réussit à inverser les choses, mais dans le même mouvement, lorsqu'il pointe du doigt l'Ukraine en disant que en Ukraine, il y a des nazis et donc il va dénazifier, et c'est ça l'objectif de guerre. Il considère, et il n'a pas tort, que les islamistes sont des nazis et donc que forcément ils sont en Ukraine.
Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça ressemble de plus en plus d'ailleurs à de la propagande soviétique, hein, ni plus ni moins. Ceci étant dit, en temps de guerre, il y a toujours de la propagande de part et d'autre. Il faut être totalement honnête et rappeler qu'au moment de l'attentat, les Ukrainiens expliquaient que c'était les Russes qui avaient fait un attentat contre eux-mêmes. C'était pas plus crédible, de même que tout ce qu'on a dit autour de Nord Stream. Donc j'essaie d'être honnête. Après, moi, je pense surtout que Vladimir Poutine est effectivement un dictateur, mais surtout un dictateur qui commet une erreur stratégique majeure, y compris pour son pays. On le voit là. Aujourd'hui, la menace prioritaire, aussi bien, je dirais, pour les démocraties occidentales que pour la Russie, c'est pas l'Ukraine, c'est effectivement la menace islamiste. Et en Russie, c'est une menace qui est très importante, puisqu'il y a une partie du territoire avec des États, finalement, c'est une fédération là, qui pourrait demain faire sécession. Vladimir Poutine pourrait se retrouver avec des républiques islamiques sur son territoire. Il a déjà eu le cas en Tchétchénie. Et donc, l'Occident, je dirais, chrétien, d'une certaine manière, devrait se défendre prioritairement contre cette menace-là. Et Vladimir Poutine, faire alliance avec nous, au moins sur ce sujet-là, pour se défendre de ce qui est, à mon avis, une menace existentielle pour lui.
Faire alliance avec Poutine, actuellement, non, c'est absolument impossible.
Et ça a été rappelé par...
C'est pas parce qu'on a un ennemi commun qu'on partage les valeurs.
Quand je dis faire alliance, c'était rappelé par Nicolas Bavrez. On travaille, les services secrets continuent à travailler sur ce sujet-là. Et je dis simplement que Vladimir Poutine, plutôt que de s'embarquer dans une guerre avec l'Ukraine qui va l'affaiblir lui et son pays... aurait dû
s'occuper de
sa sécurité intérieure. Voilà ce que j'ai voulu dire.
Merci de le préciser. On va juste écouter Alain Bauer, professeur de criminologie, qui était ce matin sur notre antenne, qui dit que c'est un véritable échec ce qui s'est passé à Moscou pour Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, il a un ennemi principal, qui est le seul qui justifie sa propre existence, sa propre survie politique, et il doit justifier d'un immense échec de ses services de sécurité. Donc il a un marteau, et quel que soit le clou qui se présente à lui, il tape dessus comme s'il n'y en avait qu'un seul, et donc il est obligé de tout relier à l'Ukraine. Et il y a une raison, paradoxalement, c'est que les seules routes qui sont quasiment libres de circulation en Russie pour des raisons de maintenance, de soutien au front, de ravitaillement, etc., les moins contrôlées pour des raisons pratiques, sont les routes vers l'Ukraine et la Biélorussie.
Voilà, c'est une des routes pour Vladimir Poutine, cet attentat à Moscou, Nicolas Bavrel.
Je pense que c'est très clairement un immense échec, effectivement. Mais en fait, il est déjà en échec, surtout. Sa démographie s'effondre. L'économie, effectivement, les hydrocarbures vont maintenant vers l'Inde et la Chine à des prix moindres, mais ramènent quand même de l'argent. L'économie de guerre, pour le coup, est une vérité, une réalité en Russie, mais ça ne nourrit pas les Russes. Il s'est mis complètement maintenant dans la main des Chinois, dont il dépend, et pour une partie de son armement, mais surtout pour ses exportations. Donc, au total, la Russie va sortir extrêmement affaiblie de cette aventure, qui est une aventure folle. Je rappelle que depuis le début de l'opération militaire spéciale qui fait qu'on n'a pas le droit de parler de guerre, alors, jusqu'à l'idée que on peut penser du bien ou du mal de Volodymyr Zelensky, mais le traité de nazi, c'est tout simplement grotesque pour un nombre de raisons illimitées. Et donc, tout est fondé sur le mensonge. Et il y a un moment donné où on finit toujours par aller taper le mur du réel. Et pour la Russie, au point où ça en est, c'est vrai que ça va être un moment qui est très dangereux. C'est quand même un pays qui conserve 6000 têtes nucléaires. C'est ça. Et donc, contrairement à ce que dit d'ailleurs Vladimir Poutine, ce qui est frappant, non seulement les Occidentaux n'ont jamais imaginé de faire la guerre à la Russie, mais tous les pays occidentaux ont ça en tête et sont extrêmement prudents parce que personne ne veut l'éclatement de la Russie. Et notamment pour cette raison. La Russie est un pays extrêmement hétérogène et divers. Et s'il doit vraiment exploser, personne ne sait où peuvent notamment aller ces 6000 têtes nucléaires.
Voilà pour la question des Russes. Et nous, sommes-nous prêts pour une guerre de haute intensité? Vous avez publié une tribune il y a quelques jours dans Le Point sur cette stratégie française. On va écouter Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui s'est exprimé ce matin et qui estime que la Russie représente une menace pour la France et qui aussi a envisagé l'idée de réquisition pour la fabrication d'armement. Écoutez-le.
La réalité, c'est que la Russie représente une menace pour nous. Pour l'Ukraine, c'est une évidence, mais une menace pour nous, ça devient de plus en plus une évidence. On voit bien que le comportement de la Fédération de Russie n'est pas le même qu'il y a 2 ans, au début de la guerre. J'ai rendu public un certain nombre d'interactions particulièrement agressives des forces armées russes à l'égard des forces armées françaises. Des attaques cyber, certes, mais attaques quand même de plus en plus dures, de plus en plus violentes, tant sur des infrastructures cyber militaires que civiles. Militaires, elles sont largement repoussées, mais les infrastructures civiles peuvent être plus fragiles.
Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation, c'est-à-dire quand vous avez soit une entreprise, soit des sous-traitants qui produisent à la fois des objets civils et des objets militaires, c'est par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile.
Voilà pour Sébastien Lecornu. On est très très loin d'une économie de guerre, Nicolas Bavrez.
On n'y est pas du tout.
La réquisition, c'est bien, mais bon.
En Russie, c'est 6% du PIB, c'est 30% du budget. Mm-hmm. Chez nous, on n'est pas à 2% du PIB, contrairement à la majorité des pays européens de l'OTAN. On est à 1,9. Mm-hmm. Et cette idée de réquisition, elle n'est pas très sérieuse, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de commande. Si vous prenez les obus de 155, on en produit 2500 par mois. Les Ukrainiens en tirent 5000 et les Russes
par jour.
Et les Russes en tirent entre 15 et 20 000 par jour, ce qui explique qu'aujourd'hui il y a une énorme. Mais Pourquoi est-ce que il y a du retard? Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de commande. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie française de l'armement, qui est puissante, puisque c'est maintenant le deuxième exportateur mondial qui est passé devant la Russie, mais précisément, le tiers du chiffre est fait à l'exportation. Et pourquoi est-ce qu'il est fait à l'exportation? C'est là que sont les marges qui permettent de financer la recherche et l'innovation. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de commande de long terme, les industriels ne peuvent pas s'engager à augmenter leur capacité de production.
C'est l'État qui devrait passer ses commandes.
Voilà, et au lieu de... Il n'y a pas besoin de réquisition, il y a besoin de commandes de l'État. Le jour où il y aura des commandes stables, et par ailleurs, on a fait des erreurs incroyables. On ne fabrique plus de poudre, on ne fabrique plus d'armes de poing, on ne fabrique plus de munitions. Donc, on s'est tapé de munitions de petit calibre. Pour les obus, c'était une toute petite production. Et vous voyez, les Allemands sont eux aussi très en retard, mais les Allemands, par exemple, pour les obus, ils ont multiplié par 4 leur production depuis 2 ans.
Ce que nous n'avons pas fait.
Et nous sommes à l'arrêt. Donc, là où le ministre a raison, c'est que la Russie est une menace existentielle aujourd'hui pour la France comme pour l'Europe. Là où je pense qu'il faut absolument qu'on bouge, c'est qu'on ne peut pas laisser en l'état une loi de programmation militaire qui, en fait, organisait la poursuite de la fonte de l'armée conventionnelle. Donc, on a remis de l'argent sur le nucléaire, et on a raison, mais l'armée conventionnelle, on diminue le nombre de chars, le nombre d'avions, le nombre de frégates ne bouge pas, et on n'a pratiquement plus d'artillerie. Donc, vous voyez, en Ukraine, il y a 1000 km de front. L'armée française serait incapable de tenir 80 km de front aujourd'hui, telle qu'elle est.
Mon Dieu.
Et donc, c'est là où il faut qu'on réfléchisse. Alors, évidemment, on ne serait pas tout seul. Et évidemment, il faut réfléchir avec les Européens. Mm-hmm. Mais il n'empêche qu'il y a vraiment un aggiornamento important à conduire.
Et urgent.
Mm-hmm. Et sur le plan des forces, et sur le plan de l'industrie, et je le rappelais avec le service militaire, et sur le plan de l'esprit de défense. Parce que par ailleurs, on a quand même installé les Français dans l'idée que la guerre était totalement impossible. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça.
On peut dire qu'elle peut se reproduire aujourd'hui, Nicolas Bavrez, sur le sol européen, pour le coup,
Elle est déjà sur le sol européen. L'Ukraine, c'est l'Europe. Et par ailleurs, comme il a été rappelé, sur le plan cyber, on a déjà des attaques quotidiennes. Et j'ajoute que, si vous voulez, c'est une question de bon sens. Si vous partez de la Baltique et que vous allez jusqu'à Gibraltar en faisant tout le tour de l'Europe, il n'y a pas une zone qui n'est pas en paix, en guerre, en crise, en révolution, avec d'énormes enjeux de sécurité. On a quand même maintenant 2 guerres ouvertes très dures en Ukraine et à Gaza. Les Turcs ont fait l'opération dans le Haut-Karabakh. Le Sahel, on se fait sortir d'Afrique et on a maintenant un Sahelistan qui se met en place. Donc, il faut en tirer les conséquences.
Tout est lié, Louis Dragnel.
Non, mais c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la tentation de se dire on fait ça pour l'Ukraine. En réalité, pas du tout. Enfin, certes, oui, par rapport à la menace que peut représenter la Russie sur le continent européen. Mais je pense que c'est toute l'hésitation en fait, française. C'est-à-dire qu'ils se disent peut-être qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Donc, principe de précaution, on ne va pas trop loin et on ne met pas tout le système productif français tourné vers l'économie de guerre. C'est un peu l'impression que ça donne. Or, effectivement, l'avenir est au réarmement. Ça, c'est une certitude absolue, Ukraine ou pas Ukraine. C'est-à-dire qu'on va être obligé, vous verrez à la prochaine campagne présidentielle, il y aura des engagements de rehaussement des budgets militaires. Ce sera un sujet très important et je pense très clivant, très différenciant entre les différents candidats. Il y a une question même imminente semble être réglée, mais en fait, c'est juste repoussé pour mieux sauter. C'est l'avenir de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique ? Vous évoquiez tout à l'heure l'élection au Sénégal, qui, pour la France, est très inquiétante, en réalité, parce que la France est sur le point de disparaître. Je pense que d'ici 5 ans, la France aura peut-être quitté le Sénégal. Le Tchad, je pense que ça ne va pas durer très longtemps non plus. Et on n'aura plus que la Côte d'Ivoire. Et donc, la question de la place de la France, par exemple, et de l'armée française en Méditerranée et de ce qu'on va devoir faire en Afrique à l'avenir
forcément posera aussi la question des capacités. Il y a des questions plus lointaines aussi au dans le Pacifique, à Taïwan.
Et tout ça dans un contexte explosif de dette qu'on évoquait au début de cette émission.
Mais ça, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que ceux qui gagneront, ceux qui se feront respecter, c'est ceux qui ont le pouvoir de faire la guerre. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas ceux qui ont le meilleur bilan écologique. C'est pas le bilan carbone qui fera la
différence. On revient à l'idée qui a déjà été évoquée par les uns et par les autres, c'est qu'il va falloir faire des choix.
C'est-à-dire, alors choisir entre l'éducation et l'armée.
Pas forcément. Enfin, entre l'éducation, parce que l'éducation participe de l'esprit de défense assurément, mais par exemple, le fait d'avoir 34% du PIB dans des aides sociales et d'avoir 1,9% du PIB dans la défense, là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne et d'une certaine manière, l'État régalien au sens large, en réalité, il a été ramené autour de 4-5%, ce qui est complètement déraisonnable. Et donc là, il y a des vraies masses sur lesquelles il va falloir s'interroger.
On a mis 1 milliard pour pouvoir nager dans la Seine. Je ne veux pas être totalement démagogue, mais c'est un chiffre qui est quand même
faramineux.
Et je pense que 16 milliards d'aide au développement des pays.
C'était juste pour rebondir et peut-être faire le lien entre les deux interventions sur la question de cette menace de la Russie pour la France. En réalité, j'ai le sentiment que comme Poutine, dans le réel, il a un vrai genou à terre et qu'il semblait vouloir dire qu'il était un des moteurs des BRICS, BRICS plus sud-global, je pense qu'effectivement, avec cette bascule qui se passe en Afrique et notamment en Afrique francophone, ça va renforcer notre fragilité. Pardon de dire comme
si
ça, mais
sûr, juste un dernier mot pour dire que cette nouvelle donne, en même temps, si on arrêtait d'être stupide, on pourrait vraiment en bénéficier. Parce que c'est un monde où l'État revient, où il faut faire un nouveau partenariat entre l'État, les entreprises, les citoyens. Dans le passé, on y était arrivé pas si mal. On a quand même, nos armées ont des points de faiblesse importants sur les drones, etc. Mais il y a aussi des acquis, et notamment le fait que ce sont des armées qui ont l'expérience du combat, qui ont continué à se battre. Ça fait une énorme différence, par exemple, avec l'Allemagne, ou avec un pays comme d'ailleurs la Chine, puisque le dernier engagement de la Chine, c'est 79 contre le Vietnam, où ça s'était très mal passé pour eux. Et donc, si vous voulez, ce que je trouve regrettable, c'est que, par ailleurs, notre pays a des atouts dans cette nouvelle donne et qu'on ne les utilise pas. Et non seulement on ne les utilise pas, mais on les stérilise pour passer notre temps sur des sujets périphériques ou des diversions. Donc remettons-nous sur le cœur des choses. Vous voyez, ce qui a été dit, le cœur de l'État, à quoi il doit servir. Et là-dessus, il faut réinvestir. Là où il n'a rien à faire, sortons-le.
Allez, Nicolas Bavrez, démocratie contre empire autoritaire. La liberté est un combat aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup de la pertinence de vos analyses ce soir dans Punchline. Merci Louis de Ragnel, Rachel Kahn, Sabrina Medjeber et Alexandre Devecchio. Dans un instant, sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zélani pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.